Bonjour, bonsoir, bon quelque chose, chers auditeurs, chères auditrices, et oui, c'est Lou. Et on se retrouve aujourd'hui dans ma rubrique Fragments d'art, dans un format un peu différent que d'habitude. Puisqu'on est en studio, et comme une nouveauté n'arrive jamais seule, c'est de littérature que nous allons parler dans ce nouvel épisode. Et oui, parce que la littérature, après tout, c'est aussi un art. Avec nous, aujourd'hui, pour la première fois sur nos ondes, une autrice vosgienne qui publie son deuxième roman intitulé « Et si c'était autrement ?» Pour un voyage hors du commun avec une œuvre singulière qui brise les codes, j'ai avec moi Chantal Delacôte. Bonjour Chantal et bienvenue sur le 107.
Bonjour Lou.
Dans mon introduction, je t'ai présentée en tant qu'autrice, mais je sais qu'en fonction de la personne, certaines préfèrent qu'on les qualifie d'auteur, d'autrice ou d'écrivaine. Comment est-ce que toi tu te qualifierais ?
Eh bien, moi, déjà, il est difficile de me situer, mais auteur me va très bien.
D'ailleurs, je crois, vu qu'effectivement, tout le monde n'est pas d'accord sur ce terme, est-ce que tu saurais éclairer ma lanterne sur le pourquoi du comment et la distinction entre autrice et écrivaine ou auteur ?
Il me semble que écrivaine, c'est dénaturé, c'est un petit peu dénaturé l'auteur, et j'aime que, puisqu'on veut toujours l'égalité des sexes, je suis désolée d'employer ce terme, on est homme, on est femme, mais on est auteur, voilà, c'est simple. Enfin, pour moi, ça se résume à ça.
Eh bien, merci d'avoir éclairé ma lanterne, Chantal. Avant toute chose, j'aimerais bien qu'on apprenne à te connaître. Et avant d'apprendre à connaître ton parcours littéraire, et oui, après tout, il y a un être humain, une femme derrière ces lignes. Donc, j'aimerais apprendre à te connaître, hein, parce que tu viens de la source de la Moselle, nichée au creux de notre si beau massif vosgien. Quel petit chemin de vie as-tu tracé pour te mener jusqu'à l'écriture des romans ?
Le petit chemin, c'était plutôt une friche et qui s'est éclairée. Voilà, il y a une lampe et qui m'a permis de faire petit chemin. Voilà, qui sent le sapin. Ça, il faut être clair. J'ai toujours écrit de la poésie, remarquée, mais je manquais peut-être d'ambition. Mais surtout, je n'étais pas dans le microcosme parisien, on va dire. Je l'ai touché de près, j'ai vu une étoile, mais voilà, mais c'est pas plus mal de ne pas avoir été publié, sauf dans quelques revues, notamment parisiennes, et j'ai toujours été soutenue dans mon écriture, dans mon chemin d'écriture. Oui, ça, ce chemin d'écriture, je ne l'ai jamais abandonné, qui m'a toujours sauvée, on va dire. La poésie m'a toujours sorti de toutes sortes de méandres mélancoliques, on va dire. Je n'aime pas trop le terme, mais voilà.
Ça a quelque chose d'assez exutoire et de cathartique, l'écriture, pour toi.
Ah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est... L'écriture est nécessaire à ma vie. C'est mon air, c'est mon air de repos. A-I-R ou A-I-R-E.
C'est ta bulle aussi.
Une bulle s'est fermée totalement, mais j'ai une ouverture, puisque je suis toujours tenaillée, tiraillée entre cet esprit que j'appelle l'esprit du monde, et puis entre la verticalité et l'horizontalité, voilà, on va dire. Et entre les deux, c'est la souffrance, indéniablement. Et on veut tous être heureux, donc chacun a sa méthode, à chacun de trouver ce qui lui va l'épanouir, lui donner de la joie. On peut très bien chercher dans la profondeur de la terre, enfin, ou s'égarer dans la profondeur de la terre, mais je crois qu'il faut essayer de voir le soleil, les étoiles.
Qu'est-ce que c'est beau, Chantal, qu'est-ce que c'est beau, et on a encore beaucoup de choses à apprendre sur toi et ta plume. Justement, tu as évidemment une appétence pour la littérature, j'imagine tu es auteur, mais tu es aussi lectrice. Mmh. J'ai appris que Frédéric Potcher t'avait suggéré d'écrire des polars. Est-ce que tu sais comment cette idée lui est venue ?
probablement en lisant ma poésie. Et puis j'avais commencé néanmoins un roman. Je lui avais montré les ébauches. Et là, ce que j'ai retenu, c'est « Vous n'écrivez pas comme tout le monde. Vous avez une façon de lier vos mots. » Et ça m'a percuté. Je ne comprenais pas. Et je ne comprends pas finalement ce que ça veut dire. Sauf que beaucoup actuellement me disent que je construis mes phrases à l'envers. Mais ça peut être un style.
C'est ce qui fait ton style, en effet, ta plume, ton identité, parce que c'est important, ton identité. Et au vu justement des quelques pages de ton roman, en tant que grande amatrice de polar, je vois que tu n'as pas suivi ce conseil. Pas tout à fait,
non,
en tout cas.
Non, mais j'ai un peu abandonné les polars pour même longtemps, depuis très longtemps. Mais non pas que je ne respecte pas les auteurs écrivant des polars et bien écrits, hein, notamment. Voilà, donc c'est les polars n'étaient pas, ça n'était pas mon... Non. Et puis même, j'étais assez contre cette idée. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas y revenir, du moins pas dans l'immédiat. Et voilà, et je suis partie dans toute autre chose, voilà.
Et ce tout autre chose, on va l'aborder un tout petit peu plus tard. Mais justement, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur tes goûts. Quels sont les genres littéraires que tu privilégies et quels auteurs ?
J'aime la profondeur. J'aime la poésie et les romans où est inclus cette poésie qui me tient aux tripes. Voilà ce que j'aime. Mais il y a tant d'auteurs que j'aime, je ne peux pas tous les citer, mais déjà les poètes en général ont une âme, on va dire. Ils ont vraiment une âme. Et souvent, on ne les reconnaît que, ou on ne les reconnaît pas. Mais même celui qui écrit le plus simplement, il parle avec son cœur, indéniablement.
Mais écrire avec son cœur, c'est écrire, oui, comme tu le disais, avec ses tripes et une écriture simple et authentique. Surtout, c'est important, l'authenticité.
On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher avec, je dis le cœur ou l'âme, je préfère le terme cœur, mais on ne triche pas en ce domaine parce que on est repéré tout de suite si on triche et ça ne va pas loin. On peut pas écrire sur la durée, on ne peut pas. Enfin, selon moi, hein, je pense qu'il n'y a pas de tricherie. La poésie, on ne peut pas.
D'ailleurs, oui, tu t'es lancé dans la publication d'un roman. Tu as dit, tu as toujours écrit. En 2021, tu as publié ton premier roman, La princesse immobile.
Ah, auparavant, j'ai publié en autopublication des aphorismes. Et il faut le signaler parce que, enfin, je tiens à le signaler quand même parce que j'écrivais des aphorismes, comme les haïkus. Les aphorismes, c'est Jeanne Cressange qui est décédée, ma grande amie que j'aimais beaucoup, qui a participé à mon évolution aussi, qui m'a poussée en avant et qui me disait que ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas de traces. Et ensuite, il y a eu, et ça je ne voulais pas l'écrire, il y a eu La princesse immobile, mais guidée par Jeanne. Et parce que ça s'adressait à tous les lecteurs.
Mais c'est un pas important, en fait, de se lancer pour publier. Je sais que beaucoup de personnes, justement, ont peur de franchir le pas.
Moi, je ne voulais pas publier. Il faut être clair. Parce que l'écriture, je dis, si je peux me permettre. Hein,
bien sûr.
La métaphore n'est pas jolie, ce que je vais vous dire. Ma métaphore n'est pas jolie du tout. Mais c'est un peu comme lorsqu'on prépare un repas. Bon, on y songe, ça c'est établir la liste de courses, voilà. Ensuite, on prépare le repas. Pour qui aime préparer à manger? On prépare, et ça c'est magnifique, on prépare, on est heureux. Ça c'est l'écriture. Et ensuite, il y a cette somme de vaisselle, c'est-à-dire aller se faire connaître, se jeter les mains dans l'eau bouillante. Dans les détergents, on va se faire abîmer les mains. Là, c'est le cœur, en l'occurrence. Mais la métaphore n'est pas jolie, mais pour moi explicite, parce que la rencontre des lecteurs est à la fois magnifique. Et je crains toujours. J'ai cette crainte. Et je me dis l'aspect, c'est pas beau, mais l'aspect commercial. Mais voilà, donc, mais partager quand quelqu'un vient vers moi. Une lectrice, un lecteur est heureux. Ah, je dis c'est gagné, c'est bien.
Donc une mise à nu un petit peu difficile, c'est un petit peu à double tranchant, on peut se retrouver face à un public qui n'apprécie pas, mais c'est aussi beau les rencontres avec un public plus réceptif, hein. Du moins c'est ce que j'entends à travers tes mots.
Ah, naturellement, c'est toute la consolation du monde, c'est tout le partage du monde, c'est elle partage, c'est formidable, c'est j'ai pas de mots, une rencontre, une belle rencontre, c'est la joie. Et la joie, ça n'a pas de prix.
Et pourtant, comme tu le disais un petit peu plus tôt, c'est assez particulier. Tu ne voulais pas publier, et pourtant tu l'as fait. Tu as osé, tu as franchi le pas de te mettre à nu. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à te faire violence, si je puis me permettre d'utiliser ce terme?
Jeanne Cressanges. Sans elle, non. J'aurais continué mon petit chemin de poésie jusque la fin, gentiment, en partageant avec deux ou trois personnes qui ont toujours cru en moi.
J'aimerais savoir, puisque tu écris, et d'ailleurs ça fait très longtemps, est-ce que tu as un rituel en particulier? Est-ce que tu te crées un espace mental ou un espace physique qui stimule un petit peu ta création?
Non. Non, non, non. L'enfermement, oui. L'enfermement m'a. Mais c'était plutôt des hurlements pour sortir de contexte. Mais il y a. Non, il y a. Je pense que il y a un appel à une nécessité. C'est tout. Bon, on pourrait peut-être aller plus avant, mais voilà, on va pas épiloguer pendant très longtemps.
Non, parce qu'en effet, on en a des choses à dire. Chantal, je te propose, si tu le veux bien, une pause musicale parmi les trois pauses que je t'ai proposées. Est-ce que tu as une préférence?
Si Solar.
C'est parti pour La Belle et le Bad Boy de MC Solar.
Ils étaient rencontrés sur les bancs de l'école, entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol. C'était une fille fun, fana de football, lui ne craignait pas les balles, c'était le goal. Ce qu'il lui promettait, c'était des balades en corvette, pour l'instant en survette. Il volait des mobilettes, mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un piédestal, un rêve délimité. S'il devenait triangle, elle serait rectangle. La belle et le bad boy, le triangle rectangle, c'est comme passer de Jodassin à Jodeci, un vrai truc de ouf, style pur clip de R&B. Elle vit le grand amour qui commence dans la course, poursuit dans les tours et rime toujours avec toujours. Mais le contexte est plus fort que le concept. Son mec se jette dans des flammes et il se lave avec les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. Pour gagner des sous ensemble, parle sans faire semblant de faire des coups ensemble. Et si c'est sanglant, il plaide devant Dieu ensemble. Vu, il était convaincant, elle était convaincue à croire qu'aujourd'hui s'arrêter était exclu. Il trafique des faux billets avec des réseaux slaves, balance la concurrence. En France, c'est un délit grave, risqué pour les paumettes. Les mecs sortent des baumettes, une a qu'un truc en tête, c'est la quête de sa corvette. Ambiance paranoïaque, l'équipe adverse traîne, des projectiles partent quand une BM freine. Quand elle tombe, il a les larmes aux yeux. Deux balles de 22, 22 ans a dit eux. Le contexte est plus fort que le concept. Son mec s'est jeté dans des flammes, faut qu'il se lave avec les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble.
Vous êtes toujours sur Radio Gémozo, sur le 107 et dans l'émission Fragments d'art avec Lou. Et on est toujours avec Chantal Delacôte pour présenter son roman « Et si c'était autrement ?» Chantal, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le pitch de ton roman ?
Alors, moi je pense qu'il est déjà important de souligner que cet ouvrage s'inscrit dans la collection, c'est explicite ça, « Entre deux mondes » aux éditions Maya.
Oui, en effet.
Et je pense que ce roman est déstabilisant au niveau de la lecture, mais c'est un, il y a un équilibre dans ce déséquilibre, et il faut se laisser porter parce qu'on passe de personnage à un autre.
Oui,
et qui sont totalement différents.
Je vais me permettre, si tu veux, de lire la quatrième de couverture en vitesse. Alors, la vie de Noé, artiste peintre à l'esprit sombre et indépendant, va se voir bouleversée par Madame Lumière, créature fabuleuse qui va tenter de l'éloigner de Yula, fiancée superficielle et maléfique. En toile de fond, un paradis au milieu d'une planète en danger. Mais qu'adviendra-t-il de notre héros ? Des trois dénouements possibles, lequel se révélera exact ?
Oui, la chute est assez inattendue.
Il y a plusieurs personnages. Est-ce qu'on peut un petit peu présenter
Vous avez deux personnages qui ont un langage trash, hein, le langage, on va dire, de tous les jours, de la rue, de
notre langage courant,
oui, parce que qui n'emploie pas des termes voilà, des termes trash, mais et de l'autre, vous avez une poésie, parce que ça, elle me tient. Je ne peux pas, mais c'est très scindé. Vous avez deux personnages, hein, notamment Noé et sa copain Momo, qui eux se parlent comme des charretiers, pour employer un terme. Et ensuite, vous avez la rencontre, cette Madame Lumière, parce qu'il faut dire que qu'à la base, c'est notre héros, artiste peintre, voilà, il fait une rencontre, on va dire, certains diront, on peut dire du troisième type, mais je sais pas comment la définir, hein, parce que chacun a un itinéraire. Et alors, je vais vous dire, c'est vrai qu'on peut vivre une vie racinaire, rationnelle, matérielle, mais comme les arbres, on peut vivre aussi entre terre et ciel. Certains s'envolent, décrochent, perdent de pied. L'idéal n'est-il pas de trouver un équilibre entre les deux ?
Mmh.
Et le grand poète Lanza del Vasto a écrit « Si tu penses je suis corps, tu iras où vont les corps ? Sous terre. Si tu veux être ton âme, tu vivras dans les eaux vives de la source. Mon héros est happé par une source lumineuse. » Alors Noé souffre-t-il d'un dérèglement mental ? Ou alors ces visions trouvent-elles les fondements de leur source au-delà de notre ignorance dans un surréel qui échappe à l'entendement des sens ? Voilà, donc, une amie à qui j'ai fait lire l'ouvrage m'a dit « ça ne s'adresse pas à tout le monde ». Oui, peut-être, mais pourquoi ça ne s'adresserait pas à tout le monde ? Dès lors où on a un esprit ouvert, je pense que et qu'on se laisse porter par l'écriture. Oui, je pense que c'est une histoire d'ouverture d'esprit. Et je voulais aussi dire qu'il n'a pas eu ou perçu des signes au cours de son existence. Au cours d'une existence, tout le monde, je pense, a des signes. On pense à une bizarrerie. Et puis souvent, on la refoule, car souvent, cette bizarrerie dérange. On n'aime pas d'être dérangé dans notre petit cocon, dans notre...
Non, pas trop.
Alors, on pense qu'on a eu une illusion, mais non, c'était... Et puis, on pense aussi au hasard. Comme par hasard. Et ça revient. Voilà. Puis un jour, il n'y a plus de hasard. Parce qu'on n'est plus dérangé, mais on repart vers la Terre, comme le dit si bien Lanza del Vasto.
Je crois aussi ressentir, donc toi tu l'as dit, un grand écart entre le langage de la narration qui est, on va dire, assez courant, virgule, soutenu, courant et soutenu, et le langage en particulier, comme tu le disais, entre Momo et Noé, qui se parlent, oui, presque comme des charretiers. C'est un grand écart qui m'a réellement désarçonnée.
Eh ben, je crois que, justement, c'est dans ce déséquilibre, il faut trouver un équilibre. Il fallait créer un équilibre. Et si on se laisse porter, voilà, parce que si c'est le langage entre Momo et Noé, tout au long du livre, mais ça n'a aucun intérêt. Ça, on en trouve. On en trouve des livres écrits de cette manière, mais moi, ce n'est pas un but en soi. C'est bien d'écrire ça, oui, oui, c'est léger, c'est drôle, c'est amusant à la limite de les voir se traiter de cette manière, de boire des canettes, de faire de la mob, voilà, hein, c'est dans la mouvance du temps. Et au-delà, il y a cet appel ou cette folie. On ne sait pas très bien, hein. On le saura à la fin du livre, ce qui se passe. Mais ça, je le laisserai découvrir. Et c'est un peu un polar à la fin.
Ah oui, un petit peu quand même.
Pas exactement, mais c'est inattendu déjà. Et puis bon, il y a tout un contexte. Je vais pas tout dévoiler, mais il a perdu ses parents. Et donc, il y a une recherche. C'est aussi une recherche de quelque chose. Mais si quelqu'un se pose des questions. Je pense que tout le monde se pose des questions à un moment donné, peut-être de moins en moins, mais en ce moment, je pense que tout le monde s'en pose. Eh bien, en ce moment-là, je crois que on peut lire ce bouquin. Voilà, c'est un petit peu comme notre héros, on est à la recherche de quelque chose. Chacun cherche son bonheur, ça peut être avoir une belle voiture, Noé dirait une bagnole, voilà, avec son copain Momo. ça peut être la littérature, ça peut être un amour inconditionnel de la musique. La musique, ce n'est pas palpable, et pourtant la musique, mon Dieu, elle nous traverse, alors comment définir la musique ?
On ne peut pas, mais en effet, dans ce roman, Noé, personnage principal, est un artiste à la dérive, ça tombe bien, il porte bien son nom, qui a une hygiène de vie quand même, si je puis me permettre, assez déplorable, une vie aussi qui ne lui fait pas beaucoup de bien, et il est, on va dire, je ne peux pas dire sauvé, mais il y a justement cette Madame Lumière qui arrive dans sa vie, un peu comme une lumière divine, même si tu me l'as dit,
oui,
toi-même, c'était pas spécialement réfléchi justement l'arrivée de cette Madame Lumière, qui est un petit peu un être indéfini et indéfinissable.
Oui, éthéré, on va dire. Et en fait, Madame Lumière, elle le dérange. Hein. Elle le dérange profondément, justement. Tiens, on parlait il y a quelques instants d'être dérangée. Ah oui, elle le dérange dans sa petite case, hein, c'est ce que je dis. Il y a cette ambitieuse Yula. Ce sont deux personnages qui sont pas très clairs, hein, Yula et Noé. Elle est dans la mouvance du temps. Une belle nana, voilà. Elle a une copine, Verna. Et le plus étonnant, c'est que leurs chemins vont se séparer. Une va devenir de plus en plus ambitieuse. Et avec tout ce que ça peut comporter. Et Verna, elle va suivre un tout autre chemin. Mais elle se rapprochera. Et Noé, bien sûr, se séparant de Yula, en quelque sorte, parce qu'il y a pas, il y a l'appel entre le bien et le mal. C'est toujours le combat. Voilà, ce même combat, le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, toujours les mêmes sujets. Hein, mais on dit tous les mêmes choses. Mais c'est la manière de le dire qui diffère. Donc, et Verna, elle rejoindra en quelque sorte Noé, mais c'est plus tempéré. Parce qu'elle trouve une voie. Elle trouve la voie de la lumière. Et Noé, lui, il en trouve une aussi. C'est aussi une voie lumineuse.
Oui.
Voilà.
Une voie vers quelque chose qui nous transcende. Mais justement, tu parlais des chemins qui se séparent entre Verna et Yula, qui, à la base, ont été décrites, comme tu le disais, dans ton roman, qu'elles sont très belles. Elles rentrent parfaitement dans les critères de beauté et elles se ressemblent. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de critique par rapport à l'accessibilité pour les jeunes femmes à la chirurgie esthétique qui se ressemble de plus en plus, ou une approche pour dire que oui, elles ont des chemins en commun? La raison pour laquelle elles se ressemblent, hein, puisque qui se ressemble s'assemble, et qu'elles vont effectivement différer et prendre chacune leur propre chemin.
Oui, mais seulement Verna, elle fait aussi sa rencontre. Elle fait une rencontre. Yula fait des rencontres, mais d'une toute autre nature, de nature matérielle, on va dire. Et l'autre fait une autre rencontre qu'elle accepte. Elle accepte, elle change de direction. Parce qu'on fait tous des rencontres qui nous... Il y a les événements qui nous modifient, les rencontres que l'on accepte. C'est le chemin de vie.
Oui, donc pour en revenir à l'attrait ou vers le plus matériel ou vers le plus, on va dire, spirituel, oui, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'âme,
oui.
Ça fait partie du grand écart qui fait partie de ton roman que je vois un petit
c'est
peu
tout à fait
grand
ça.
Écart.
C'est tout à fait ça. Deux mondes, entre deux mondes.
Oui,
il cherche son équilibre. Finalement, il cherche quelque chose. Mais qui n'est pas entre deux mondes? Bon, parfois on fait un choix déterminant. Mais là, Lanza del Vasto disait, tu iras sous terre, hein, on a choisi la terre. Ou alors, on choisit une autre voie. Mais l'équilibre, si on ne choisit qu'une des deux, une voie, une seule, eh bien là, on est en danger. Hein, si on choisit la voie verticale, uniquement verticale, mais non, on a un corps, on a une âme, mais on a un corps. Donc, il faut, voilà, c'est ça, c'est notre condition de mortel. Mais ne l'oublions pas, notre condition de mortel. Et je pense que l'équilibre, voilà, c'est l'arbre, c'est l'image de l'arbre. Enraciné,
oui,
c'est le vent, mais tout en gardant les pieds bien sur terre et la tête, la tête dans les étoiles.
On va peut-être rester dans le grand écart avec la pause musicale suivante, pardon. On s'est écouté MC Solar, là on va faire un bond dans le temps, on va écouter de la musique classique avec Puccelli et son morceau Ciacona en sol mineur et on se retrouve tout de suite sur le 107. toujours sur le 107 sur Radio Gémozo dans l'émission Fragments d'art. Nous sommes toujours avec Chantal Delacôte pour parler de son roman Et si c'était autrement. Chantal, je crois que tu as quelque chose à me dire, tu me fais un signe.
On vient d'un petit peu parler et je crois que c'est en parlant que l'on voit clair, c'est le miroir. Donc je pense que tu es plus à même de répéter ce que je viens de dire.
Oui, parce qu'on parlait justement des personnes torturées, des personnes qui s'élèvent aussi. Et justement, on en revient à la réalité où on est tellement rattrapé par le quotidien, par le monde réel, qu'on se laisse embourber dans son quotidien et qu'on perd notre, notre cime. Comme tu as parlé de l'arbre juste avant la pause musicale, on est enraciné dans la vie, dans le quotidien, dans ce qui est attendu de nous par la société, mais on perd justement malheureusement cette grande cime, cette âme qui nous permet de nous évader et d'aller bien au-delà, de s'élever.
Et de nous épanouir.
Oui, aussi.
Hein, de s'épanouir, oui, c'est tout à fait ça. Dans tout ce que je dis, il y a l'aspect quotidien, et ça, on ne doit pas le gommer, pas plus, on ne doit pas l'aspect... Les racines sont importantes. C'est pas le tout de jouer les fanfarons, je m'élève. Non. Et sinon, ça donne des extrêmes. On le voit aujourd'hui aussi, les extrémités qui échappent. Voilà, on prend une direction que l'un ou l'autre. Les extrêmes ne sont pas bons.
Oui, nous sommes dans un monde de plus en plus fracturé.
Oui, c'est cela. Et je pense que c'est une histoire d'équilibre. Comme manger est nécessaire, on peut se loger. Oui, si quand on est bien logé, on est content. Mais d'autre part, on a besoin d'une autre nourriture. Mais on ne doit pas. C'est jamais au détriment de l'autre.
Et cet équilibre se fait aussi en acceptant justement les deux pôles différents, sans en choisir un pour autant, mais trouver un petit peu le juste milieu.
Oui, c'est tout à fait ça.
Justement, encore une fois, pour ce décalage, ce côté très torturé, Chantal, je crois que tu voulais nous lire un passage.
Noé, le fleuve avait débordé et il se répandait. Du tumulte de ses eaux parvenait une voix qui, roulant comme tonnerre, épouvanta l'univers. De mémoire d'homme, personne n'avait attendu pareil rugissement. Aucun cataclysme, si violent, si terrible soit-il, n'avait jamais atteint l'ampleur de cet abîme de désolation. Au retour du calme, devant tant de dépouilles, débris humains, animaux, végétaux, bois, métal déchiquetés, aussi loin que portait le regard, pire qu'un champ de bataille à la télé, cette vision d'épouvante statufia Noé. D'où avait surgi cette calamité? Quel pays? Était-ce une punition magistrale? Quel gotha méritait d'être ainsi châtié? Était-ce la répétition de l'antique déluge? Et lui, était-il l'unique survivant de l'espèce? Dans une solitude de terre boueuse et de ciel bleu, il hurla, sa voix qui l'étranglait, le réveilla. Sur le canapé, en sky noir, la vision cauchemardesque le poursuivait. Quel monde fut mis à mal? Était-ce passé, avenir proche? La vision de l'horreur l'affligeait. Oublié.
Un passage où on voit un petit peu un monde intérieur. C'est un rêve de Noé, je crois, s'il se réveille sur son canapé.
Ah ça, on l'ignore.
On l'ignore,
parce que Noé, il est entre deux mondes. Ouais. Noé, on ne sait pas très bien. La canicule qui perdure, il y a cette planète si belle, si merveilleuse, qui est en danger. Qu'est-ce qu'on en a fait? Lui aussi devant cette désolation. Mais on ne sait pas très bien, on le saura à la fin. Est-ce que c'est une vision? Est-ce réel? On est toujours, voilà, entre deux mondes. Et il faut se laisser porter par l'écriture, en quelque sorte.
Le plus simplement du monde.
Oui, le plus simplement du monde.
D'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé du titre. En effet, c'est un moment entre deux mondes. Le roman se termine, ou du moins on se demande comment il va se terminer entre plusieurs choix. Alors pourquoi le titre et si c'était autrement?
Et pourquoi pas? Si c'était autrement, on ne sait pas ce que l'on fait. Je suis perplexe, hein, parce que les trois versions dernières, oui, il ne pourrait n'y en avoir qu'une, mais non, c'est indissociable, puisque cet être est dissocié à la fois, mais je ne sais pas, ça s'est imposé à moi. Voilà, ça s'est imposé, je n'ai pas trouvé d'autre titre. Si j'avais le combat avec l'ange, mais c'est déjà du vu et du revu, on va dire, hein, donc c'était, j'allais pas l'employer, mais j'ai pensé que ça, puisque c'était un combat. Mais j'avais pas de titre précis. Et puis, si c'était autrement, c'est très simple, voilà.
Il y a aussi un moment qui m'a un peu déroutée. Je suppose que c'est voulu. Il y a une alternance de point de vue d'un paragraphe à un autre. Même si je ne l'ai pas sous les yeux très précisément, j'ai lu un moment où il y avait un narrateur omniscient. Puis, c'était un narrateur interne, à savoir, on était dans la tête de Noé. Et de nouveau, un narrateur omniscient. J'imagine que ça doit faire partie aussi de cette plume assez déroutante.
Il fallait faire parler cette plume, parce que si elle avait été muette, elle n'aurait pas existé. Donc, c'est pareil, ça se dévoile à la fin. On comprend la voix. Cette voix qui vient de... D'où vient-elle d'ailleurs, hein? D'où vient-elle? Est-ce de l'imagination pure de Noé? Est-ce une voix réelle? On est entre deux mondes. Et c'est pareil, il faut se laisser porter. Ah, une voix arrive. Bon, on la lit, on l'assimile ou pas? Elle nous est proche ou pas? Voilà, c'est une... Elle a son monologue ou son dialogue avec Dulcinée, ce personnage dont Madame Lumière se sert pour convaincre Noé. On va dire que Dulcinée, ça pourrait être un ange, même si c'est un non-dit. Donc, des forces bienveillantes, quoi, et au service de la lumière. Voilà. Hein,
Est-ce que Dulcinée a quelque chose qui tient de la muse?
Oui. En effet, me revient des passages. Oui, quelque part, mais c'est une muse, mais oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, en y réfléchissant, oui, elle paraît désincarnée déjà, et puis elle se transmue, ça peut être déstabilisant, oui, cette lecture, en effet, mais si, il suffit de se laisser porter, et puis se dire, voilà, parce que, et se laisser porter par la poésie, de laisser ces passages, notamment Madame Lumière, Dulcinée, on y entre ou on n'y entre pas, hein, ça, voilà, je peux pas convaincre plus si on n'accroche pas, voilà, donc c'est ainsi, hein.
D'ailleurs, ces passages, comme tu le soulignes, ces passages avec Dulcinée et Madame Lumière sont justement de la narration poétique et soutenue. C'est un petit peu une forme de respiration en contraste avec les moments où on lit le point de vue de Yula ou de Momo, là où on est vraiment torturé, on est sous l'eau. Et là, Dulcinée et Madame Lumière sont un petit peu des moments où on peut respirer.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait, parce qu'il faut avoir une bulle de respiration. C'est lorsque tu dis embourbé, pour ne pas s'embourber dans le quotidien. Ça peut être la musique, hein, mais c'est ce qui empêche, justement, on revient toujours au même, là, en tournant un petit peu en rond, comme eux. Et puis, d'être écrasé par le poids.
Tu avais parlé, justement, de combat avec des anges, de ce cataclysme. Et j'ai envie de proposer la dernière pause musicale, si tu le permets, Chantal. Il s'agit de Hallelujah Goes Rock, une reprise de Leonard Cohen, cette fois, par No Resolve, et on se retrouve après pour la fin.
Merci.
I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes
like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, and the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
Vous êtes de retour sur le 107, toujours dans Fragments d'art, avec Lou et Chantal Delacôte pour son roman Et si c'était autrement. Chantal, est-ce que tu es toujours avec nous pour les quelques mots de la fin ?
Oui, naturellement, je ne vais pas vous laisser choir en si bon chemin.
Oui, en effet. D'ailleurs, avant toute chose, il me semble que tu es passée il n'y a pas très longtemps dans l'émission de Gilles Laporte.
Oui, en effet. RCF, dans l'émission Ouvrons les guillemets, de Gilles Laporte. Et je le remercie.
Et on lui passe le bonjour.
Je le remercie vivement et puis je remercie tous mes soutiens indéfectibles. Toutes les personnes qui aiment l'originalité aussi,
oui.
Mais indéfectibles. J'ai des personnes qui m'ont tout au long de ce parcours soutenue et ça c'est très important.
Alors, c'est très important d'être soutenu dans son travail, en effet, qu'il y ait eu des personnes qui ont été là pour t'aider à porter ce projet.
Et dans mes doutes.
Oui.
Je pense que si je n'avais pas été aussi poussée par mes soutiens pour envoyer aux éditeurs, eh bien, peut-être que je l'aurais écrit, mais sans aller plus loin. Ça, ce n'est pas impossible non plus. Qui risque rien n'a rien.
Voilà. Non, en effet.
C'est un risque, mais voilà. J'espère que l'éditrice y croit. Eh bien, il faut y croire, tout simplement.
Oui, tout simplement. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit mot pour les futurs lecteurs, un petit mot à leur adresser avant qu'ils ne se plongent justement
dans les. Ah oui, parce que lorsque je vois une personne venir au dédicace, je me dis cette personne s'est déplacée. Mon Dieu, je suis toujours confondue et je tiens à les recevoir avec toute mon empathie, tout ce que je suis, leur renvoyer ce que je suis intérieurement, même si ça ne se voit pas, parce qu'on ne voit pas la personne intérieure, on voit toujours l'extérieur. Mais je suis touchée, je me dis, mon Dieu, que c'est gentil. Et je suis étonnée aussi. Voilà, j'ai un étonnement et puis émerveillée aussi par toutes ces personnes, parce que chaque personne a une richesse, a un parcours du combattant, a des souffrances. Chaque vie est un roman, voilà. Et c'est pas de moi, hein, c'est Colporte. Voilà.
Mais c'est très beau. Pour les prochaines séances de dédicaces, quand tu passeras auprès du public, est-ce que tu as peut-être des réseaux sociaux sur lesquels tu peux les annoncer ou un autre site internet en particulier ?
Non, je compte sur mes amis, parce que moi, je suis un peu. Je sais pas, je vais dire le mot complexé. d'en faire la publicité, donc le bouche à oreille auprès de personnes qui y croient, parce que elles sont bienvenues, hein. Bon, les personnes me connaissent, donc c'est plus simple, mais peut-être seront-elles déroutées elles aussi, parce que La Princesse Immobile, c'était une écriture simple, et ceux qui, mes lectrices, qui connaissent ma poésie, disaient, mais c'est toi, oui, on te retrouve, mais pas profondément ce que tu es profondément, c'est plus fort que ça. C'est une force, mais une force qu'il faut contrôler, et qu'il faut sur le papier.
Une force qui a fini par s'exprimer dans ton roman, et si c'était autrement.
Et je dois dire aussi, je vais encore dire quelque chose, j'aurais voulu que la première page, il y ait une première page, une seconde page, et qu'ensuite, Noé, l'étincelle jaillit du néant, seulement commence, voilà. Mais le deuxième paragraphe peut rejoindre la fin, et c'est ça qui est important. Mais ça, on ne le sait qu'à la fin. Oui. C'est un peu désordonné, je suis d'accord. Mais dans le désordre, il y a un ordre suprême, on va dire, voilà.
En effet, un ordre suprême, et on a hâte justement d'en savoir plus. Et si c'était autrement, aux éditions Maya et dans la collection Entre deux mondes. Chantal, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
Eh bien, des lecteurs curieux, ouverts, et puis heureux, voilà, heureux, surpris naturellement, voilà. Et puis merci à tous ceux qui viendront me voir. Merci à tous ceux qui se déplaceront, même s'il y en a peu, même s'il y en a un. Quand je commence les dédicaces, je me dis, s'il y a un lecteur qui s'approche de moi, je serai heureuse.
Eh bien, c'est tout.
Et je le remercie. Je le remercie d'avance.
En effet, on remercie tous les lecteurs et on te remercie d'avoir publié ton roman. Dans tous les cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci à toi d'être passé dans nos studios. Et puis, à une prochaine sur le 107, j'espère.
Au revoir.
Fragment d'air sur Radio Gémozo avec nous.